Auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangu. Une émission qui vous éclaire sur tous les sujets et qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Les programmes du studio Kalangu sont diffusés en direct par 31 radios partenaires à travers le Niger et ce, du lundi au vendredi, de 17h à 19h et les week-ends de 17h15 à 18h15. Ce soir, le thème principal autour duquel tourneront nos échanges durant 45 minutes, c'est le secourisme en cas d'accident ou de catastrophe. C'est quoi le secourisme? Quelles sont les différentes formes de secours? Qui sont ceux qui interviennent pour apporter du secours? À quel moment interviennent-ils et comment? Quels sont les moyens d'intervention dont ces services de secours disposent et quelles sont les difficultés auxquelles ils font face? Quels sont les types d'accidents les plus fréquents? Quels sont les premiers gestes de secours qui sont bons à savoir? Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, nous avons fait appel aux spécialistes du secourisme, notamment Nejim Chebou, commandant des sapeurs-pompiers Lazare. Bonsoir Nejim.
Bonsoir.
Et Ousmane Ibrahim, qui est le coordinateur national des premiers secours de la Croix-Rouge nigérienne. Bonsoir Monsieur Ousmane Ibrahim.
Bonsoir Monsieur.
Merci à vous d'avoir honoré notre invitation à la présentation de cette émission à Alassane Kouzi Mahamadou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme du studio Kalangu. Le forum de ce soir, je le disais tantôt, porte sur le thème secourisme en cas d'accident ou de catastrophe. Au Niger, il n'est un secret pour personne que ces dernières années, les situations d'urgence se sont multipliées aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Les accidents de circulation sont devenus monnaie courante avec leur lot de victimes chaque jour sur les routes. En novembre 2016, par exemple, lors de la Journée africaine de la sécurité routière, le ministère des Transports a fait cas de 4036 décès dans 31 290 accidents de la route officiellement recensés entre 2011 et 2015 au Niger, soit une moyenne de 800 morts par an et 15 392 blessés graves. Le Niger détient plus de 37% du taux des accidents de la route dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, selon les statistiques officielles. Autre situation d'urgence, ce sont les inondations caractéristiques des changements climatiques. À ce niveau, le rapport publié par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA en juillet 2017 fait état de 19 459 personnes affectées par les inondations à la date du 10 juillet 2017, d'où un total de 2405 ménages sinistrés recensés et le nombre de personnes décédées s'est élevé à 23 sur l'ensemble du pays. On est aussi habitué à un cycle infernal d'incendies qui survient le plus souvent dans les marchés, si ce n'est dans certaines concessions. Autant de situations qui demandent une assistance et des secours, un certain nombre d'acteurs et de structures s'attellent tant bien que mal chaque jour pour apporter le secours nécessaire. Alors, pour planter les deux corps, je m'en vais commencer tout d'abord avec vous, Ousmane Ibrahim, coordinateur national des premiers secours de la Croix-Rouge nigérienne. Qu'est-ce que c'est que le secourisme?
Je vais d'abord vraiment remercier la radio Kalangu, en fait, de nous avoir donné cette opportunité de nous présenter et présenter un peu la matière sur laquelle nous intervenons matin, midi, soir. Alors là, vous m'interpellez sur un aspect qui est très important et très utile pour nous, pour la communauté et pour l'ensemble des populations qui souffrent souvent de ces petits soucis des secours. Alors le secourisme, d'une manière brève, c'est juste les gestes simples qu'il faut apporter à une personne lorsqu'elle est dans la nécessité d'avoir ces secours-là suite à une situation d'accident, comme vous venez de dire, ou suite à une situation de violence, ou suite à une situation de catastrophe, comme vous venez de le dire. On va partir sur le même la même lancée. Mm-hmm. Ce serait très intéressant que cette personne-là, quand elle est dans cette situation-là, qu'elle reçoive dans les instants qui suivent l'accident, qu'elle reçoive des gestes pour pouvoir sauver sa vie. Je vais vous dire peut-être les situations des secours qu'on doit apporter. Mm-hmm. En fait, différentes situations, généralement, c'est les situations qu'on rencontre couramment en ville, comme en nord-agglomération, c'est les accidents des voies publiques ou des accidents que vous appelez communément des accidents de circulation. Il y a aussi des secours qu'on peut apporter en situation de violence, c'est-à-dire que là, c'est des situations de conflit ou autre type de ce genre, mm-hmm. ou ensuite les situations devant des catastrophes liées à un fait, liées à un incendie, liées à des inondations, liées à d'autres phénomènes de la vie courante.
Les interventions peuvent être différentes selon les situations.
Exactement. Situations diffèrent, également les secours peuvent différer.
Alors,
et là, pour la plupart de ce que nous sommes en train de voir en ville, nous, en ce qui concerne la Croix-Rouge nigérienne, pour la plupart de nos interventions en situation d'accident de circulation, on intervient de façon isolée. Mm-hmm. Parce que nous, notre première intervention, c'est nos volontaires qui sont dissimulés dans la population. Alors, ils interviennent de façon isolée, seuls, devant une victime ou deux, devant une victime. Et c'est après leur intervention, ils font appel au service de la protection civile, qui est les pompiers, pour venir prendre la victime et l'évacuer vers un centre de santé le plus proche. Ou encore, si on pense que le SAMU est à côté. Ici, dans le dispositif du Niger, le SAMU aussi est vraiment pris dans le même plateau technique pour pouvoir ramasser et évacuer une victime vers les centres de santé.
Voilà bien. Un peu donc, ce qu'on fait pour le moment. Grosso modo, qu'est-ce qu'on peut retenir du rôle de la Croix-Rouge nigérienne?
Oui, la Croix-Rouge nigérienne a un rôle primordial à jouer dans ce sens-là. Depuis 1965, la Croix-Rouge est sur ses premiers secours-là. Là, c'est en grande partie la formation de la communauté, de la population nigérienne sur les gestes qui sauvent. Ça, c'est vraiment un élément très important que la Croix-Rouge est en train de faire. C'est former, aider et amener la population nigérienne à comprendre les gestes élémentaires, faire les premiers gestes et après chercher les services spécialisés pour les évacuer les victimes.
Et ces formations, c'est on choisit des personnes à la volée, ciblées, comment c'est fait le choix?
En fait, le choix, c'est quoi? La Croix-Rouge nigérienne a une incarnation, si vous voulez, communautaire. La base de l'assise de la Croix-Rouge nigérienne, c'est tout ce qui est communautaire. Donc, comment nous faisons? Nous avons des volontaires qui sont dans cette communauté-là, qui émanent des communautés. Donc, les volontaires-là sont des membres actifs de la Croix-Rouge nigérienne. Alors, quand il s'agit d'une formation ou d'un atelier ou d'une rencontre, alors nous identifions le besoin de la communauté. S'il y a le besoin de former des secouristes, alors on forme des secouristes dans cette communauté-là pour pouvoir jouer le rôle, pour pouvoir apporter ces secours-là au moment où il faut.
Bien. Voilà. Nous allons revenir à vous, le temps de donner la parole à Nejim, qui est donc Nejim Chaibou, qui est le commandant des sapeurs-pompiers de Lazaré. Nejim, les sapeurs-pompiers que vous représentez ici, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les circonstances dans lesquelles vous êtes habilité, vos services sont habilités à intervenir? D'accord. Et comment?
Merci également au studio Kalangou de nous accueillir dans ces locaux. C'est l'occasion pour nous d'étaler quelque peu nos activités opérationnel. Secourir, d'une manière générale, c'est assister d'urgence une personne, soit accidentée ou en danger. Et pour effectuer cette action, je pense qu'il faut un minimum de connaissances et de techniques. Voilà. Donc, qui parle d'urgence parle également de notion de délai. Et quant à la connaissance, on fait et nous faisons allusion à la connaissance des gestes élémentaires évoqués tout à l'heure par M. Ousmane.
Mm-hmm. Oui. Et quelles sont les situations dans lesquelles vous intervenez, des cas d'urgence sur lesquels particulièrement vous intervenez, les sapeurs-pompiers?
Eh bien,
est-ce que c'est tous les cas ou un certain nombre de cas?
Eh bien, de façon isolée ou en équipe, nous intervenons dans presque toutes les situations accidentelles ou des situations de catastrophe. Nous intervenons dans les cas d'inondation et dans les cas d'accidents de circulation. Ça se voit chaque jour. Et également, nous faisons cas des feux et aussi des secours à victimes pour des personnes malades ou souffrant d'autres malaises. Et vraiment, nous avons les pattes partout.
Vous êtes tout le temps sur le terrain. Quels sont les types d'accidents les plus fréquents que vous rencontrez?
Les accidents fréquents, c'est surtout les accidents de la voie publique et en général auto-moto, auto-auto, auto-vélo ou piéton ou avec d'autres moyens en tout cas qui utilisent les voies publiques. Et c'est vraiment récurrent, surtout en cette période de fin d'année où le nombre d'accidents de circulation connaît un pic. Vous savez, par an, on n'enregistre pas moins de 4000 accidents de circulation sur lesquels nous avons intervenu. Et cela n'en est pas moins pour les autres. Donc, si on fait le cumul, on a un chiffre, un nombre vraiment hallucinant quant aux accidents de circulation. Et on enregistre malheureusement une centaine de pertes en vies humaines.
Est-ce qu'on peut avoir une idée des moyens d'intervention dont les services de secours, notamment les sapeurs-pompiers, disposent pour le cas de Niamey, pour couvrir un peu la ville de Niamey?
Enfin, notre moyen premier, en tout cas, pour nos différentes interventions, c'est nos ambulances que tout le monde voit à longueur de journée. Donc, nous avons un certain nombre de compagnies et chaque compagnie est dotée d'une ambulance. Et ces ambulances qui sont vraiment occupées à plein temps, surtout maintenant.
Bien. Monsieur Ousmane Ibrahim, coordinateur national des premiers secours Croix-Rouge nigérienne. Quels sont les moyens que vous déployez sur le terrain pour parvenir à l'une des missions, qui est la vôtre, notamment celle de la formation?
Ok, merci. Alors là, moi, je vais parler aussi, je vais aller un peu plus long, un peu plus loin. Mm-hmm. Nous, ici, dans nos interventions, nous allons parler un peu des dispositifs. En fait, le dispositif, pour le moment, nous pensons que chaque intervenant dans les premiers secours au Niger connaît en fait un peu sa mission. Et nous formons une sorte de cordon, on se colle. À chaque niveau, il y a au moins un plateau technique qui est réservé à un partenaire. Nous n'avons pas cette vocation de prendre la victime du lieu de l'accident et l'évacuer vers un centre de santé. Ça, il y a des services spécialisés pour ça.
Ouais.
Et nous avons vocation à donner les rudiments, les gestes, comme il avait dit, techniques, pour vraiment avoir une idée qu'on est en face d'une personne qui souffre, une personne humaine, et elle a reçu des problèmes. Alors, comment corriger ces problèmes-là et stabiliser cette victime-là en attendant que ces services qui sont appelés, qui ont la mission à faire l'évacuation, et comment nous allons mettre cette personne-là dans les conditions, soutenir en fait psychologiquement cette personne-là, et afin de faire venir ce service spécialisé pour l'évacuer. Donc, en termes de dispositifs, nous avons à Niamey ou dans toutes les régions du Niger des brigades. Et ces brigades-là, nous les appelons communément des brigades d'intervention d'urgence, qui vont en fait en situation d'accident et en situation de conflit, qui peuvent intervenir et directement coordonner avec les autres services qui font les secours. En dehors de ça, nous avons à Niamey une ambulance et un peu dans toutes les régions du Niger, nous disposons aussi des véhicules pour permettre à ces équipes-là de se déplacer de leur lieu de regroupement à un niveau ou au lieu de l'accident. Ou encore, nous avons aussi, je vous avais dit tout à l'heure là, que nous avons des secouristes formés dans la communauté, et ces secouristes, même de passage, s'ils voient un accident se produire, ils ont au moins ces outils, ils ont aussi cette capacité d'arrêter et de de faire la sécurisation des lieux là, alerter les services et puis procéder aux gestes qui sauvent en attendant que les services spécialisés arrivent. Alors, disons en résumé que nous disposons en fait d'une logistique un peu à Niamey et dans la région du Niger. Présentement, au niveau central, nous disposons d'une ambulance. Mais la mission d'ambulance n'était pas la mission régalienne de faire évacuer. Mais s'il y a un dispositif, par exemple, qui est coordonné de façon générale, globale, il y a une intervention qui nécessite un plan d'organisation de façon globale pour les secours, nous amenons notre ambulance pour appui. Mais la mission première ou la mission régalienne de la Croix-Rouge, c'est de former la communauté, connaître les gestes qu'il faut et savoir qui alerter au moment opportun en fonction de la situation qui se présente devant elle.
Bien.
C'est ça.
Vous avez parlé de brigades d'intervention d'urgence qui est déployée donc un peu partout. Ces brigades d'intervention, comment est-ce qu'ils interviennent? Comment est-ce que ces brigades interviennent? Est-ce qu'il y a un contact à travers lequel on fait appel à ces brigades, ou bien tout simplement ils sont comme les volontaires formés qui à tout moment peuvent apporter du secours?
Exactement. Ces brigades-là, en fait, c'est un mélange des secouristes bien qualifiés qui ont des brevets de moniteurs et des brevets d'instructeurs. Et il y a des secouristes qui ont leur certificat de premier secours et il y a des volontaires qui ont la notion des premiers secours. Et ces brigades, leur intervention, en fait, ils ont une mission. La mission, c'est intervenir quand il y a une situation de conflit ou une situation qui se dégénère. Il y a une foule, donc ils sont organisés. Alors, ils viennent de façon organisée en équipe pour pouvoir intervenir et directement chercher l'appui avec les autres là pour que la situation se gère de façon correcte. Maintenant, comme on parle de brigade, au niveau de chaque localité ou de chaque un peu structuration régionale, vous avez départementale, sous-régionale et autres là, nous avons des unités, ce que nous appelons des unités d'intervention d'urgence. Dès qu'il y a une situation d'urgence, alors ces unités-là font les premiers pas et ils signalent rapidement aux autres équipes là pour se constituer. Et maintenant, le responsable, quand il est informé, il s'adresse et il alerte directement les services spécialisés pour qu'on vienne ensemble apporter les secours à cette population-là quand il y a une situation qui concerne une masse de population concernée. Ça, on est organisé dans ce domaine-là. Et maintenant, si c'est un cas isolé, c'est une personne, si le secouriste est seul, il peut s'arrêter, apporter les secours et maintenant alerter directement les services les autres services qui peuvent apporter et évacuer les victimes là vers les centres.
Bien. Nous revenons à vous, Nejim Chaibou, commandant des sapeurs-pompiers Lazare. Vous représentez ici la protection civile. On a vu que souvent, dans des cas d'accidents, de circulation, les gens souvent, en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers, observent la victime parce que ils circulent. Cette information selon laquelle nul n'a le droit de prendre un accidenté dans son véhicule, nul n'a le droit de le toucher avant l'arrivée des secours pour ne pas avoir de problème. Vous confirmez cela, que cela est une nécessité pour vous, les secouristes, de ne pas trouver dans une situation plus aggravée d'une victime?
Eh bien, cette question de ne pas toucher les victimes d'accidents de circulation est un stéréotype qui se développe de jour en jour. Pas moins qu'hier, nous sommes tombés sur un accident de circulation où le témoin dit qu'il pouvait approcher la victime, mais de peur de se faire reprocher de quoi que ce soit, ne l'a pas fait, alors que celle-ci saignait beaucoup. C'est pas que nous, en fait, les services spécialisés, c'est pas que nous empêchons à la population d'approcher une victime, mais nous insistons sur la façon de faire. Parce que avant tout, l'objectif, c'est de sauver la victime et non d'aggraver sa situation. Donc, et le minimum de connaissances, il est requis pour pouvoir aborder la victime. Même si j'ai pas le réflexe de toucher la victime, la moindre des choses, en fait, à faire, c'est au moins protéger la victime et justement les curieux qui sont là et alerter. efficacement. Et rien que ça, c'est le début du geste, en fait, de secours. Donc, nous insistons sur l'instruction, en fait, de masse de la population sur les gestes de secours. Vous savez, si on a ne serait-ce qu'un cinquième de la population qui est instruite par rapport au premier secours, des dizaines de milliers de vies supplémentaires seraient sauvées dans ce sens.
Parce qu'effectivement, on a vu que souvent, ça peut prendre du temps que les secours arrivent, compte tenu souvent de la distance entre le lieu de l'accident et le lieu où se trouvent les secours.
Effectivement, il n'y a pas que la distance qui intervient, il y a aussi le comportement des usagers de la route,
de la circulation.
Et il y a aussi le nombre d'accidents au même moment, qui est survenu au même moment. Et là, c'est un problème qui est là également. Vous voyez, s'il faut sauver quand même une victime, rester là, la regarder n'est pas la solution. Nous, je le répète, nous n'empêchons pas à la population de toucher à une victime, mais il faut une certaine façon de faire. Voilà.
Oui, allez-y, Ousmane Ibrahim.
Ça, c'est vraiment ce qu'il vient de dire. C'est quelque chose qu'on rencontre couramment. Et dans nos formations aussi, j'ai été à maintes reprises interpellé par des étudiants, surtout en santé, ceux qui font les licences en soins infirmiers. Là, ils me disent que mais nous, on nous interdit de toucher aux victimes, presque les pompiers ou bien le SAMU. Le dit, j'ai dit non, je dis souvent, s'il vous plaît, il faut comprendre les choses de façon claire. Le cas qu'il a évoqué, qu'il vient d'évoquer, une personne qui perd son sang, est-ce qu'elle pourra attendre pendant 10, 15, 20, une heure de temps avec le sang et la personne qui saigne? Vous êtes devant cette victime-là, vous ne pouvez pas faire quelque chose? Ils me disent, oui, on peut faire quelque chose. Mais alors, si vous attendez, presque il y a des consignes ou il y a des choses qui sont en train d'être dites, est-ce que vous ne contribuez pas à tuer cette victime-là? Souvent, ils disent, oui, mais j'ai dit, non, écoutez, les problèmes qui se présentent ou la façon de faire avancer des rumeurs ou des informations, et nous sommes dans un pays... Nous sommes dans une organisation et nous sommes dans des structures où rien ne se fait sans un texte. Est-ce que vous avez une fois vu un texte ou bien on vous a brandi le texte qui vous interdit de toucher malgré que vous savez faire quelque chose là-dessus? Souvent, ils me disent non. Souvent, j'appelle aux gens, ceux qui savent faire quelque chose en termes de gestes, faites le geste. Et alerter automatiquement les services compétents pour vous aider à évacuer la victime. Il s'agit d'une question de vie. Ce n'est pas une question, en fait, où il faut regarder, observer les gens mourir et devant vous. Ce n'est pas du tout la joie. Ici, les secours, généralement, les gens banalisent les choses. Le petit geste simple, là, l'alerte, là, constitue des secours. Sécuriser les lieux, c'est un secours. Quand vous touchez à la victime et vous savez faire une position ou un geste correctement fait pour pouvoir vraiment stabiliser la personne, c'est un secours. En fait, quand vous alertez, vous sécurisez, vous faites du secours. Ce n'est pas le fait de toucher la victime ou de bouger la victime ou bien prendre la victime, l'évacuer vers un centre de santé qui est les secours. Non, le secours, c'est un gros plateau où il faut comprendre les choses. Mais nous allons continuer à appeler la population nigérienne à sensibiliser pour ces genres de rumeurs-là. Il faut que les gens cherchent des fondements, il faut qu'ils cherchent des bases, il faut qu'ils cherchent, qu'ils lisent
avant de les prendre,
de prendre les choses comme considérables. Oui. Voilà, nous sommes devant le commandant. Le commandant lui-même, il dit que c'est des choses qu'ils entendent dire, alors que c'est pas ça, c'est pas vérifié. Voilà.
Bien.
Il a quelque chose à comprendre.
Nous revenons à vous, Najim.
Oui, moi je pense qu'au-delà même de la responsabilité morale de chacun, de chaque intervenant, il faut se dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous imaginez, je pourrais me retrouver dans la même situation que cette victime-là. Est-ce que ça serait bien
que les gens me regardent,
que les gens soient là, arrêtés à m'observer? Et il y en a qui profèrent certaines paroles qui psychologiquement touchent énormément la victime. Quelqu'un qui a une fracture ouverte et que tout le monde se met à le crier à haute voix, là, franchement, ça aggrave l'état de la victime. Je pense que tout en rejoignant M. Ousmane, nous n'avons pas interdit à qui que ce soit de toucher à une victime. Tant que vous avez les connaissances nécessaires, tant que vous avez les gestes techniques, il faut sauver, parce que c'est le maître mot.
Monsieur Nejim Cheibou, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes souvent confrontés lors de vos interventions?
La toute première des choses, c'est la présence du public, en fait, qui ne sert pas forcément à quelque chose durant l'intervention. Déjà, c'est se mettre en danger soi-même et mettre les autres en danger. Si je prends le cas d'un feu, par exemple, surtout un feu d'hydrocarbures, il y a toujours ce risque d'explosion qui n'est pas exclu. Il y a, quand c'est un accident de circulation, il y a toujours ce risque de suraccident qui n'est pas exclu. Également, nous avons aussi des cas de fausse alerte. Pendant que des gens ont le besoin réel des secours, il y a quelqu'un d'autre qui s'amuse à appeler les secours juste pour le plaisir de les voir passer inutilement. Et ça, c'est vraiment un problème auquel nous faisons quotidiennement.
En moyenne, combien par jour, par semaine, vous avez une idée?
Par jour, franchement, je ne saurais vous donner un chiffre. Il suffit de rester 20 minutes au bureau de coordination des opérations de transmission. Chez nous, les pompiers, c'est là où, quand vous appelez les 18, ça sonne. Il suffit de rester 20 minutes là-bas, vous risquez de compter une trentaine de fausses alertes.
Trentaine.
Ça, c'est, je ne vous dis pas à longueur de journée, je vous ai donné une fourchette de temps. Et c'est vraiment un problème très sérieux.
Comment arriver alors à savoir qu'une telle alerte n'est pas fausse? Et savoir partir sur une bonne piste.
Nous avons le souci constant de sauver. Alors, quand vous nous appelez, on ne réfléchit pas trop si c'est faux ou pas. L'essentiel, c'est de sauver cette personne qui a besoin d'aide.
Je vais dire, est-ce que souvent il vous arrive d'attendre assez qu'il y ait 2-4 appels pour être sûr qu'il s'agit d'une situation réelle?
En général, quand c'est réel, les 3-4 appels que vous dites, c'est de façon spontanée, ça vient. Pas besoin d'attendre. On n'attend pas vraiment, mais ça va de soi. Tant que la situation elle est réelle, voilà, ça se voit automatiquement les minutes qui suivent.
Quelle autre difficulté vous...
Et également, nous avons aussi le problème d'accessibilité pour les ambulances, parce que c'est vrai, de plus en plus les gens prennent conscience de la situation, mais je pense que beaucoup reste à faire quant au fait de laisser passer les ambulances pour aller rapidement.
Vous voulez dire dans la circulation?
Dans la circulation, bien sûr. Et je pense que c'est l'occasion pour nous d'en appeler à leur conscience. Et que, je le répète, ça n'arrive pas qu'aux autres.
Monsieur Ousmane Ibrahim, comment s'est fait un peu la coordination entre les différents secours, ou comment doit-elle se faire?
Oui, la coordination entre nous, intervenants en premier secours, nous coordonnons de façon... Dans la coordination, nous ne voyons pas de problème, mais les seules difficultés qu'on a souvent, c'est... Nous n'avons pas assez de temps disponible pour nous voir, nous concerter. Mais de façon isolée, je crois que à chaque niveau des intervenants, chacun connaît la place de l'autre. Également, quand nous organisons nos activités de mise à jour ou nos activités de validation des documents, on se retrouve souvent et on se fait des rappels d'un certain nombre de choses et on se rappelle d'un certain nombre d'activités que nous organisions ensemble et on fait le check, les points forts qui ont marché et les points faibles à améliorer. Et également, souvent, on se donne des suggestions entre nous. Nous, dans nos formations, dans notre curricula de formation, l'alerte a un point très, très important. Nous la retraçons en 8 points. Donc la personne, quand il prend le téléphone pour dissuader et donner vraiment une information, une matière à cette alerte-là, il se présente. Il présente le numéro par lequel il appelle et ensuite, maintenant, il peut commencer à décrire la situation, qu'est-ce qui s'est passé, il y a le nombre de victimes, le lieu, il présente la partie géographique, là où l'accident s'est passé. Et ensuite, il présente l'état des victimes, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire, et maintenant, est-ce que la voie est bonne? Est-ce que c'est un lieu qui est vraiment profitable pour cette... Si il pense que la voie par laquelle les secours là vont venir, il y a des problèmes, il peut proposer aussi, vous pouvez passer de l'autre côté, ce serait plus dégagé et ça sera plus facile pour vous pour venir sur les lieux-là. Quand eux, ils reçoivent ces messages-là, ils savent que c'est quelqu'un de spécialisé au moins dans ce domaine-là. Ce n'est pas quelqu'un n'importe qui appelle. Donc, en fait, pratiquement, dans nos quotidiens de formation, on retrace l'alerte dans ce domaine-là. Et quand ils entendent quelqu'un appeler dans ce sens-là, ce qui a été formé par la Croix-Rouge.
Voilà. Bien. Nejim, nous revenons à vous. Comment est-ce qu'on peut aider les sapeurs-pompiers ou le SAMI, le service d'aide médicale d'urgence qui est également intervient?
Nous pouvons être aidés de plusieurs façons. Comme l'a dit mon cher collègue M. Ousmane, déjà, quand vous faites une bonne alerte, ça nous prépare à venir sur le terrain. L'intervention, elle est à moitié gagnée. D'être sur le terrain, on gagne en délai et on sait d'avance les dispositions et le matériel qu'il faut prendre en compte par rapport à l'état de la victime actuelle. Et également, je pense qu'il est temps pour tout un chacun d'arrêter de se faire à l'idée que les pompiers ou toute autre structure interdit à la population de toucher à la victime. Je pense que de perdre du temps à spéculer là-dessus, il serait grand temps quand même pour la grande masse d'apprendre les techniques, les gestes élémentaires. Ça pourrait sauver beaucoup de vies. Vraiment, ça sera d'une grande aide pour nous parce que là, au lieu de courir sur plusieurs terrains à la fois, si quand même d'un côté la victime est bien prise en charge, je pense qu'on gagnera double ensemble.
On sait que tout à l'heure, je l'ai dit, il y a aussi le SAMI, le service d'aide médicale d'urgence qui intervient également dans certains cas d'urgence. Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles c'est eux qui doivent intervenir et non vous ou c'est vous qui...
Vous savez, nous travaillons de concert avec toutes ces structures, nous n'avons absolument aucun problème. La coordination, c'est comme il l'a dit, elle est bonne, elle est correcte. De façon isolée, le secouriste, par exemple, de la Croix-Rouge qui a déjà pris en charge la victime sur place, quand elle nous appelle, on prend juste le relais et puis ça continue. Maintenant, dans les situations de grande envergure, là où toutes les structures sont mobilisées, chaque structure met en place ses moyens. Et là, il y a un coordinateur qui est là et qui coordonne le tout. Et je pense qu'il n'y a pas, en fait, de situation particulière par structure. Voilà, tout est question de la situation à l'instant T. Et quand il y a 3 accidents et que mes ambulances sont toutes prises, je peux faire appel au SAMI pour prendre en charge une 4e, une 5e. Une énième victime.
Quels sont les contacts utiles pour les sapeurs-pompiers? C'est toujours les numéros?
C'est toujours le numéro 18. Effectivement, par rapport au numéro 18, les gens se plaignent souvent qu'ils appellent les pompiers et que ça ne passe pas. Cela n'est pas du tout le cas. C'est également des spéculations. Souvent, c'est dû à un problème de réseau. Ça ne sonne pas nécessairement chez les pompiers. Même si c'est le cas sur vos GSM, sachez que il y a toujours des gens, des secouristes en permanence qui sont là, qui peuvent également prodiguer des conseils avant l'arrivée des secours. Donc nous insistons toujours sur l'alerte. Faites l'alerte correctement, laissez votre contact pour d'éventuelles informations complémentaires. Cela va permettre aux secouristes vraiment de prendre en charge rapidement.
Et pour le SAMI, on sait que c'est le numéro 15.
Oui.
Bien. Et on a vu tout à l'heure ensemble que la formation donc de base en secourisme aux populations est une nécessité. Certains spécialistes affirment que des vies pourraient être épargnées si une personne sur 5 connaissait les gestes d'urgence, des gestes simples, comme vous l'avez dit, M. Ousmane, qui, s'ils sont bien pratiqués correctement, peuvent sauver des vies. Alors, Nejim, la formation, vous pensez que ça peut grandement aider à apporter du secours, à changer la tendance?
Bien sûr, cela pourrait changer considérablement la tendance, que ça soit de façon volontaire ou, je ne sais pas, par institution, tout le monde peut faire appel à nous pour les formations. Donc nous sommes là, nous sommes disponibles pour ça. Et donc le maître mot, c'est sauver plus de vies que possible.
Vous voulez dire que au-delà de votre activité quotidienne de secourir les sapeurs-pompiers, la service protection civile prodigue également des formations?
Effectivement, la formation fait partie intégrante de nos activités. Donc au-delà des activités opérationnelles, nous formons également toute
sur
personne
demande,
physique,
sur
demande, en tout cas tout volontaire, nous sommes prêts pour ça. Voilà.
Ousmane Ibrahim, coordinateur national des premiers secours Croix-Rouge nigérienne. Oui. Quels sont les premiers gestes de secours qui sont bons à savoir?
Bon, parler des premiers gestes de secours bons à savoir.
Si vous devez donner un petit cours.
Oui. C'est limiter simplement les secours. Et si on dit les bons gestes, c'est les bons gestes au bon moment et devant la victime qui nécessite ces gestes-là. C'est ça. Mais en fait, par rapport à ce que vous venez de dire, de façon globale, toutes les organisations que vous voyez qui font des secours, elles ont cette vocation de former le public pour qu'il ait au moins cette notion de secours, parce que tout à l'heure on a évoqué que le secours là, il est extrêmement important à domicile, sur la voie publique, et même à domicile, sur la voie publique et au service. Pourquoi? Parce que tout simplement, à chaque moment, chaque instant, nous frôlons des risques, et ces risques là, ils ne sont pas calculés à un niveau près. Et moi, je m'étonne souvent quand je vois des personnes dire que bon, nous allons former simplement des gardiens ou des vigiles, où on va former, et eux, les administrateurs, ils se disent toujours que en fait, c'est des personnes qui pensent que l'accident là, ils peuvent éviter cet accident. La formation, elle est pour tout le monde. Alors sur cette base, nous, à notre niveau, nous avons même institué un cadre ou un canevas juste pour quelqu'un qui a un temps disponible de 12 heures de temps, il peut avoir des prérequis pour sauver des vies. Pour quelqu'un qui a un temps de 18 heures de temps, alors on peut lui donner au moins un certain nombre de connaissances par rapport au module prévu pour 18 heures de temps. Et on a prévu aussi quelque chose qui va avec les gens qui sont un peu plus disponibles pendant une semaine. Mmh. Au moins, au bout de ce temps-là, la personne peut avoir tout ce qui est connaissances théorique, mais aussi connaissance pratique pour sauver des vies. Donc, sauver une vie, ce n'est pas en fait un truc qu'on peut faire de façon comme ça, parce que j'ai vu l'autre la faire. Non, il faut venir faire toi-même devant un spécialiste qui s'y connaît et qui peut corriger un peu tes gestes et te dire voilà les raisons qu'on pousse aux gens à faire ce geste-là, parce qu'il y a technique, parce que c'est se fait devant sur des vies et des personnes. Par rapport au geste le plus intéressant, ou la façon dont nous pensons qu'il serait des cas où nous devons intervenir le plus urgentement possible, quand vous voyez une personne qui saigne abondamment, c'est une situation qui ne peut pas attendre longtemps. Quand vous voyez quelqu'un qui tombe et il est inconscient, il respire, mais il est dans une position où lui-même, ses tissus, deviennent relax, les tissus, il devient flasque. Donc s'il est dans une position où il est allongé sur le dos, normalement, vous ne pouvez pas le laisser comme ça attendre pendant plus de 30 minutes, pendant une heure de temps. Il y a une position ici qui est intéressante, qu'il faut placer la victime. Quand vous voyez souvent des éléments où il y a des problèmes d'étouffement, et quand cet étouffement-là, il est total, faites un geste. C'est vraiment des choses ici, des situations où on tente à aider la vie. C'est une question vitale.
Pour le cas de l'étouffement, souvent, certains spécialistes parlent de donner des claques dans le dos de la victime pour...
Oui, exactement. Il faut donner des claques, mais il faut donner des claques à un bon niveau et également comment doser ces claques. C'est ça le plus important. Mm-hmm. Et nous avions vu au cours de nos formations des gens qui disent qu'on peut donner des coups de poing sur le cou. Et également, la dame, elle dit qu'elle peut renverser son enfant et prendre les pieds pour le secouer. Bon, vous voyez, c'est des choses qui se font dans la communauté. Nous ne les décourageons pas. Mm-hmm. Mais quand même, il serait important et intéressant qu'ils viennent apprendre, qu'ils voient vraiment mm-hmm. quel est le geste le plus efficace. Un petit geste simple, mm-hmm. vous allez comprendre que c'est ça le plus important pour vous. Mm-hmm. Et ce que vous faisiez, peut-être que ça constitue des risques. Au lieu de régler le problème, vous aggravez le problème. C'est des choses comme ça qu'il faut voir. Et aussi, il y a des situations aussi de malaise. Un malaise peut faire tomber une personne tout de suite. Si vous ne savez pas mettre la victime au repos et lui poser des questions pour pouvoir savoir de quoi elle souffre. C'est un problème.
Votre dernier mot, qu'attendez-vous des personnes morales ou physiques pour mener à bien vos interventions sur l'ensemble du pays?
Oui, sur l'ensemble du pays, nous voulons un peu la contribution de toute la communauté, qu'elles appuient et également qu'elles voient un peu de façon positive les gestes de secours. Tout celui qui vient sauver une vie, vraiment, c'est quelqu'un de très courageux. Il faut l'aider. Il faut créer un peu le climat pour faciliter cette intervention-là. Et également, les secours spécialisés, c'est aussi vraiment un moyen. Les secours spécialisés ont des moyens qui facilitent l'évacuation de ces personnes-là. Et au lieu d'étouffer ou d'empêcher, ou souvent vous allez voir, nous appelons une ambulance de la protection civile, les pompiers. Ils viennent en cours de route, malgré le juron phare, ceux qui l'allument, mais vous voyez que les gens empêchent la fluidité de l'accès. Ce n'est pas bon. Et il faut que la population comprenne, une fois qu'ils voient une juron phare à une ambulance, ce qui a une question extrême d'extrême urgence. Une ambulance ne peut pas circuler comme ça pour le plaisir de le faire. C'est juste pour sauver des vies. Ou il y a une victime dedans, ou encore elle est sur le point d'aller chercher une victime. Donc ça là, il faut que nos populations, nos communautés comprennent cela.
D'où la nécessité d'évacuer
la voie. Dès qu'ils entendent les automobilistes et autres là, dès qu'ils entendent une ambulance lancer son gyrophare là, de faire au moins un passage pour pouvoir donner l'accès à ces ambulances-là. Il faut que cette notion de morale entre dans nos mœurs. Il faut que ça ancre chez nous. Et aussi la contribution de nos autorités. C'est vrai, les autorités font beaucoup de choses, mais ce n'est pas assez. Il faut qu'ils continuent encore à sensibiliser. Le meilleur sensibilisateur dans toutes les actions de secours, c'est d'abord les autorités. Si les autorités aujourd'hui vraiment donnent un coup de pouce par rapport aux gestes qui sauvent et également à la formation dans tous les domaines et dans toutes les couches sociales, c'est sûr, nous arriverons à avoir un grand public qui comprend facilement les choses et vous allez voir la diminution progressive de ces cas des victimes-là qu'on amène souvent
dans des situations assez aggravées.
Voilà.
Najim Chaibou, commandant des sapeurs-pompiers, votre dernier mot?
Et donc, à l'endroit de la population, sauver une vie, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qu'il faut cultiver. Et il faut le cultiver à tous les niveaux. C'est-à-dire, quand je suis premier témoin d'un accident, d'une catastrophe, la première des choses, protéger, alerter les secours. Si j'ai la connaissance ou les techniques des gestes de secours, je les applique au bon moment et de la bonne manière, et les premiers secours, les prompts secours, donc qui sont les services spécialisés, une fois sur place, vous prendront le relais jusqu'à la prise en charge médicale. Et également pour tous ceux qui le peuvent, il faut accompagner ces services là de quelque façon que ce soit, si que ce soit au niveau des moyens ou si c'est la formation qu'il faut appuyer, je pense que tout geste est à saluer quand même. Et quelqu'un qui est là pour sauver une vie, c'est quelqu'un qui a encouragé vraiment.
Merci beaucoup à tous. Nous sommes donc au terme du forum de ce soir. Nous étions avec Najim Chebou, commandant des sapeurs-pompiers Lazare, Ousmane Ibrahim, coordinateur national des premiers secours de la Croix-Rouge nigérienne. Présentation à Alassane Kouzi Mamadou, à la technique Ousseini Issaka. Merci d'avoir suivi cette émission.